L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 18 juin 1815, au milieu des champs qui entourent Mont-Saint-Jean. Le soleil se couche dans un vacarme ahurissant. Une odeur de poudre, de sang et de mort recouvre les corps et les survivants de l'armée française qui, paniqués, se précipitent en arrière. Peut-être est-il 21h, sûrement un peu plus tard. Personne n'est plus en mesure actuellement de jouer les maîtres du temps. C'est la cohue. Inébranlable, hallucinante. Les régiments de cavalerie détalent, les montures piaffent. Les officiers hurlent, essaient de maintenir l'ordre. Mais la vague rouge arrive. La contre-attaque est en cours. Alors que faire? C'est la retraite ou mourir? Au milieu de la fumée stagnante des derniers coups de canon et des cris de désespoir, les immortels, pourtant, sont encore debout. Et eux, monstres de courage et vestiges d'une époque qui disparaît sous leurs yeux, tiennent. Quelques carrés pour sauver tous les autres, quelques carrés pour la gloire, quelques carrés pour l'immortalité. Il est aux alentours de 21h. C'est leur hache de mon histoire. Quelques minutes plus tôt, l'histoire vient de se décider. Pierre Cambronne est un général au cœur lourd ce soir. Il y a quelques minutes, la moyenne garde a reculé. Cette garde impériale, l'empereur Napoléon l'a pourtant façonnée à son image. Elle est composée de braves, de soldats aguerris aux joutes de l'époque. Prussiens, Autrichiens, Russes, tous sont passés sous le jugement impartial de leurs baïonnettes et de leurs célèbres bonnets à poils. Mais sans vraiment comprendre pourquoi, dans le feu de l'action intense, terrible, Cambronne est là, maintenant, dans la position du vaincu. Plus aucun doute. Face aux alliés du duc de Wellington, peut-être la marche était-elle trop haute? Il l'ignore. Mais voilà que l'ordre venu directement de l'empereur a été de rompre la colonne d'attaque et de se mettre en carré, rangé par bataillon. Ils se sont mis en formation, comme à la parade. Si ce n'est que, dans le cas présent, les boulets pleuvent et la mort ramasse les âmes par sillon. Déjà, le cœur de l'armée française est en déroute. Reste la garde, comme toujours. Au cœur de ce champ de bataille, on passe de devenir le plus légendaire d'entre tous. Une ferme blanche et en flammes se dresse. La haie sainte. Les trois carrés se tiennent là, 100 mètres en contrebas de ces bâtiments agricoles dont les traces de sang et de poudre recouvrent les murs immaculés. La panique. Ces hommes-là ne savent pas ce que c'est. Cambronne l'ignore, mais d'autres résistent encore. Non loin d'eux, un autre officier s'efforce de rassembler les débris. Le Rougeau, le brave des braves, le fameux maréchal Ney. La tête nue, l'habit déchiré et à moitié ouvert, un débris de sabre à la main, il vient d'avoir son 5e cheval tué sous lui. Mais voilà que déjà, il est de retour. Il tente de rassembler ses dernières troupes et s'exclame « Venez voir comment meurt un maréchal de France !» Peine perdue. Le destin en a déjà décidé autrement. Il ne mourra pas sous des balles anglaises ou prussiennes, mais bien françaises, payant de sa vie dans quelques mois sa trahison au roi et son ralliement à Napoléon. Parlons-en d'ailleurs. Le visage de cet empereur marque la stupéfaction et la résignation. Tout est fini, il le sait. Avant de chevaucher à bride abattue vers l'arrière, lui aussi, il vient ordonner à Cambronne et les siens de reculer. Les fuyards arrivent, désorganisés au possible. Ils cherchent à se réfugier au sein de ces carrés d'immortels qui les repoussent sans ménagement. Il en va de la sécurité de la formation. Un fuyard qui sera un peu plus insistant que les autres se fera tirer dessus par l'un des géants. Il mourra sur le coup. Les ordres de l'empereur sont clairs. Reculer, certes, oui, mais couvrir la retraite à tout prix. Cambronne sent passer sur sa droite des cavaliers aux couleurs ennemies. Des hussards anglais qui font mine de ne pas les avoir vus. Ils s'attaquent aux fuyards. Les proies sont plus faciles, moins ordonnées. Et puis la vieille garde, nom de Dieu, tous les soldats du monde en ont peur. Voilà quelques détachements qui se rapprochent tout de même au grand galop pour les taquiner. Ils sont repoussés sans ménagement. Mais un peu plus loin, à travers les bribes que lui laissent voir les nuages de fumée, Cambronne voit arriver en rang serré et au pas de charge les lignes de fantassins ennemis. La catastrophe se profile. Et lui, ne peut rien y faire. Plus en arrière, là où Napoléon est resté toute la journée pour observer les mouvements de ses troupes, face à la résistance acharnée de Wellington, deux carrés se tiennent eux aussi en réserve. Mais si vous pensez que ceux que nous venons de quitter en contrebas de la ferme sont impressionnants, vous n'avez encore rien vu. C'est le premier grenadier à pied qui se tient là, moustache grise en avant et faisant preuve d'un stoïcisme qui ferait reculer n'importe quelle armée du monde. 4 membres sur 10 de ces troupes d'élite sont décorés de la fameuse Légion d'honneur. La majorité d'entre eux sont des hommes qui cumulent chacun plus de 14 ans de service. Une éternité, à cette époque où le fer et le feu vous découpent avec une facilité et une régularité déconcertantes. Certains d'entre eux ont envahi l'Égypte avec l'empereur, qui n'était alors qu'un général. Et aujourd'hui, ces titans, plus grands que la moyenne, attendent le choc. Les voilà qui réceptionne maintenant les fuyards interceptés par Cambronne un peu plus tôt. Un grenadier manque de tuer un général qui essaie de se frayer un passage parmi eux. On ne passe pas, épaulette ou pas. Tout ce qui se présente, ennemi ou ami, est arrosé de tirs ou de coups de crosse. Bientôt, ces deux déploiements tant redoutés sont entourés d'une muraille de dépouilles humaines ou équines. Chaque attaque de l'adversaire est repoussée avec une vigueur qui impressionne. Et eux ne bougent pas d'un pied. Jusqu'au moment où l'empereur lui-même leur ordonne de reculer. C'est la seule façon de les contraindre à le faire, en arrière toute. Pour la première fois depuis le début de la période napoléonienne, ce régiment de choc recule, s'arrête tous les 200 mètres pour se réaligner, repousse les ennemis qui poussent. Les géants font face à deux armées. Plus personne n'ose maintenant les attaquer. Et alors que Cambronne se fait cerner en contrebas, eux se mettent en colonne par section. La bataille s'achève. Personne ne veut être le dernier des morts d'une boucherie innommable. La garde est blessée à mort. Certes, elle agonise. Mais plus que les autres, elle impose le respect. Et personne ne pourra lui dicter sa marche à suivre. Voilà les fantômes de l'armée qui se retirent, harcelés par les cavaliers ennemis. Mais d'autres, eux, sont restés au cœur de la tempête. Les 3 bataillons en contrebas que le général Cambronne commande reculent pas à pas, cernés de toutes parts, victimes des canons britanniques qui les tirent au jeu de quilles à moins de 60 mètres. Et puis, repousser la cavalerie, c'est une chose. Mais maintenant, voilà que ce sont les soldats d'infanterie qui sont au contact et qui tirent sans cesse, sans pitié. Un 4e bataillon, auparavant placé en réserve, les rejoint pour la fin du monde. La position était devenue intenable, de toute façon. Les carrés, impressionnants, sur 3 rangs, s'arrêtent à chaque pas, ou presque. Certains trébuchent et tombent, d'autres sont tués. Et voilà qu'acculés, les rangs se décomposent. Les voilà maintenant en triangle, sur 2 rangs. La retraite et la marche sont entravées par des cadavres, comme si les morts ne voulaient pas être laissés là, à la main de l'armée alliée. Voilà que les Anglais, maintenant, sont à portée de voix. Tout est perdu. Tout est fini. Voilà venu le temps, messieurs, de se rendre, de mourir. Et voilà que la légende, déjà, arrive, se mêlant à l'histoire dans la cohue. Les sommations de l'ennemi se font plus fortes. Et c'est le moment où, à cheval, dans un carré, Cambronne aurait crié son fameux « merde ». Rajoutant, lui ou un sous-officier du carré, « la garde meurt, mais ne se rend pas ». Les prenant au mot, les Anglais vont ravager ces survivants sous un déluge de feu et de cris d'horreur. Mais notre général héroïque, lui, n'est plus au centre du carré. A-t-il seulement prononcé cette phrase qu'on lui impute ? Fait prisonnier à la suite d'une blessure avant le choc fatidique, soigné par une Anglaise qu'il va épouser, Jamais de son vivant il n'acceptera de confirmer cette rumeur. Si l'espace d'un instant je dois enfin décortiquer face à vous la légende de l'histoire, il est fort probable qu'il n'ait jamais prononcé une seule de ces phrases. Non. Certains murmurent même que lui s'est rendu avant le déluge. Alors qui croire ? C'est là toute la complexité de la bataille de Waterloo que je vous propose aujourd'hui de parcourir. Elle appartient depuis 2 siècles à la légende. Notre histoire commence une quinzaine d'heures plus tôt. Nous sommes le 18 juin 1815. Il est un peu plus de 4 heures du matin. L'empereur Napoléon Ier a mal dormi. Il est d'une humeur maussade, pour ne pas dire de chien. Le souverain est importuné par des crises hémorroïdaires dont je vous passe les détails. Et puis, il n'est pas satisfait de ce début de campagne. Les yeux rivés vers les étoiles, cachés par des cumulus qui ont déversé sur la tête de ses hommes une pluie torrentielle la veille, il cherche sa providence. Et le voilà qui, de nouveau, se perd dans ses pensées. Cette bonne étoile, qui depuis presque 20 ans lui permet de sauter sur le monde à pieds joints, orchestrant à lui seul ou presque la politique mondiale, semble avoir filé à l'anglaise, c'est le cas de le dire. Et c'est pas nouveau. Voilà 3 ans que ça dure. Les neiges glaciales et mortelles de Russie semblent avoir très gravement entaché cette providence derrière laquelle il court depuis tout ce temps. Les victoires, depuis lors, ne sont plus décisives. Les défaites, elles, sont cataclysmiques. Exilé une première fois, s'échappant et revenant au pouvoir, son plan pour battre les 2 armées de Wellington et Blücher est pourtant parfait sur le papier. Mais les 3 premiers jours de combat ne se sont pas passés comme prévu. Un chasseur de sa garde, à la porte de la fermette dans laquelle Napoléon a passé la nuit, le regarde scruter le ciel. Stoïque, il est trempé comme une soupe. Avec émotion, il regarde ce chef de guerre contempler les étoiles, persuadé qu'il prépare son plan pour la journée à venir. Mais il se trompe lourdement. Ce soldat, aux 10 ans de service. Napoléon est perdu dans ses pensées. Et jusqu'à ce réveil matinal, est resté persuadé que Wellington n'allait pas livrer bataille ici, la forêt de Soignes, dans son dos. Eh bien, il se trompe. Et dès qu'il fait ses premiers pas dans ce sol boueux et humide, il remarque que les lignes n'ont pas bougé. Vite, Gourgaud. Ce jeune officier d'ordonnance, l'un de ses plus proches collaborateurs, arrive aussi vite qu'il ne faut de temps pour le dire. Et les voilà tous deux partis à cheval dans la campagne. Les jarrets des montures s'enfoncent dans la boue et leur vitesse est altérée. L'esprit du grand homme se met en marche. Cette boue, c'est une très mauvaise nouvelle. Les canons ne vont pas pouvoir se dégager avec facilité. Et alors que les impératifs lui imposent d'attaquer aussi vite que possible, il va falloir retarder le premier assaut. La trotteuse qui tourne, voilà la première des batailles que Napoléon doit mener ce 18 juin. L'empereur est déjà vêtu de son habit fétiche, sa célèbre tenue verte de ses chasseurs à cheval de sa garde. Sa redingote grise tombe sur l'arrière-train de sa petite jument. Son bicorne est vissé sur la tête. Et, l'air grave, il demande sans cesse des efforts supplémentaires à sa monture. La journée est à peine commencée que déjà la monture a l'écume aux lèvres. Heureusement, d'autres de ses coursiers personnels attendent sagement la relève. La Marie, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la jument de ce matin. La légende les représente blancs. Ils ne le sont pas. Gris tout au plus. Elle ne le sait pas encore, mais la Marie sera faite prisonnière à la fin de cette fatidique journée et envoyée en Angleterre. Gourgaud, lui, monte un alezan beaucoup plus grand qui semble géant comparé à son auguste voisin de chevauchée. Pour l'empereur, pour lui les cartes. De temps à autre, il s'arrête et Napoléon, sans maudire, prend des notes, prévoit les scénarios. Bon, mauvais, il essaye de tout calculer, mais le temps presse, impossible de tout prendre en compte. Sur sa gauche, un bois. Il se décide. Prendre le boisé, tenter de couper la ligne de retraite de Wellington. Au pire, le forcer à dégager son centre en le provoquant de ce côté-là, ce qui permettra de faire une percée au centre décisive. Son coup est classique, mais tellement de fois gagnant par le passé qu'il ne se pose pas trop de questions sur sa fiabilité. Son frère, Jérôme, est situé de ce côté avec ses troupes. il effectuera le travail. Vite. Rentrer au QG. Provoquer une réunion après le petit déjeuner avec son état-major. Ça y est, tout est clair dans sa tête. Sur le trajet du retour, il distance Gourgaud et lève la tête. Le jour se lève. Les étoiles ont disparu. Mais la pluie, au moins, ne tombe plus. Deux heures plus tard, les armées se réveillent, éreintées. Les soldats français, marcheurs infatigables, n'ont pour la plupart pas mangé depuis au moins 48 heures et ils viennent de dormir le nez dans la boue pour les moins chanceux. Pour ceux avec un peu plus de chance, le tronc d'un arbre aura été le refuge. Auguste Martin et René Brassine sont des fusiliers du 3e de ligne et font partie du 2e corps d'armée français commandé par le général Rey. Ils ont été envoyés en éclaireur à la limite du Boisé, situé sur la gauche de l'armée française. Leur ventre gargouille, la faim les tenaille, et les gouttes qui tombent des arbres touffus et qui viennent s'écraser sur leur uniforme, déjà couvert de boue, les agacent un peu plus. Autant vous dire que le moral n'est pas au beau fixe. Certes, le temps est moins gâté que la veille, mais Auguste a perdu une de ses chaussures dans la boue et impossible de s'arrêter pour la chercher. Il va devoir passer cette journée avec un pied nu. D'après les bruits, on va se battre. Il a le teint maussade, comme vous pouvez l'imaginer, mais les deux Français sont rassurés. Ils progressent facilement dans le boisé et ne rencontrent pas de résistance. Distinguant au loin le débouché du bois et notant une agitation particulière, ils progressent sur la fin avec une grande prudence. Et quelle n'est pas leur surprise quand se dresse devant eux une ferme-château immense que les Anglais semblent préparer pour l'affrontement. Ils entendent des coups de marteau. Des ouvertures sont percées dans les murs. Les officiers hurlent sur leurs hommes qui s'affairent presque au pas de course. Voilà une découverte qu'il va falloir rapporter à l'état-major. En s'approchant, Auguste y trouvera peut-être une nouvelle paire de souliers. Son pied gauche, humide, frigorifié, n'en demande pas tant. Les deux compagnons échangent quelques regards stupéfaits face à ce monstre de pierre qui se dresse devant eux. Ils se préparent à repartir quand le sol se met à trembler. Ils ont juste le temps de basculer dans les fourrés juste devant eux, les fusils en avant. Les deux hommes s'immobilisent. Une nuée de cavaliers, une dizaine tout au plus, vient se poster sur l'esplanade nue entre les murs et les arbres derrière lesquels ils sont réfugiés. L'un d'entre eux prend la parole, plus en avant. Son cheval bébrun est marqué en tête d'une trace blanche. De Lascar l'ignore, mais il s'appelle Copenhague. Et son illustre cavalier, en tenue bleu marine, bicorne vissée en bataille sur la tête, dans le prolongement de son visage donc, n'est autre que le duc de Wellington lui-même. Il est à portée de tir. Son état-major aussi. Les uniformes panachés. La qualité du harnachement ne trompe pas. Ils sont face au plus haut gradé du commandement ennemi. Mais ils ne savent pas, bien entendu, avec les connaissances qu'ils ont en qualité d'éclaireur, que le grand sec qui donne ses consignes est le commandant en chef de l'armée ennemie. Un tir, un seul. Et l'histoire en serait définitivement changé. Mais au lieu de ça, les cavaliers repartent et nos deux hommes regagnent les lignes. C'est aussi ça, Waterloo. Une succession d'occasions manquées.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H nous conduit dans les méandres de l'histoire militaire mondiale afin de revivre les événements d'une bataille qui a changé la face du monde, celle de Waterloo. L'empereur Napoléon, en campagne depuis un peu moins de 4 jours, se trouve confronté au fait de devoir se battre sur un terrain qu'il n'a pas choisi. Mais les éléments se sont déchaînés la veille. La boue vient retarder les premiers coups de canon et les premiers assauts. Tout doit débuter sur son flanc gauche, là où deux éclaireurs viennent de découvrir un imposant ensemble de bâtiments derrière le boisé, qui doit faire l'objet d'une attaque de diversion. Jérôme Bonaparte, à cheval, regarde sa montre. Il est 11h15. Le plus petit des frères de Napoléon est le seul présent sur le champ de bataille, ce 18 juin 1815. Les autres n'ont pas suivi. Jérôme est au cœur de l'organe de commandement du deuxième corps. Il n'a pas les manettes de manière officielle, mais sa position familiale lui donne quasiment les pleins pouvoirs sur ce qu'il se passe. Pour le meilleur et pour le pire. Son auguste frère lui a demandé de mener dans ce boisé un assaut de diversion. Le but est d'obliger Wellington, apeuré par la manœuvre, à détacher un certain nombre de régiments dans cette zone, affaiblissant par là même son centre, point névralgique, que cherche à bousculer Napoléon. Mais le jeune de la fratrie est aussi sous pression. Il n'a pas souvent donné satisfaction à l'empereur ces dernières années. Cette bataille, c'est l'occasion rêvée de prouver sa valeur, que ce soit par son courage ou ses compétences tactiques. Il en est persuadé. Il peut à lui seul impulser la victoire sur cette aile gauche. 11h20. Les oiseaux chantent, encore pour un temps. Face à lui, le boisé. Jérôme le sait, il grouille de troupes ennemies qui sont prêtes, elles aussi. Mais seuls les oiseaux viennent perturber l'installation des premières lignes. L'odeur aussi, toujours très forte. De tant d'hommes regroupés dans l'effort au même endroit, c'est un indicateur de ce qui se prépare. Les régiments sont prêts. Les sous-officiers passent dans les rangs et jettent un œil à l'alignement de leurs soldats. Le ciel est encore chargé de cumulus. Mais déjà par endroits, le soleil vient percer l'épaisse couche de nuages et vient luire sur les épaulettes et les shakos. Les chevaux des officiers semblent interloqués par cette attente inhabituelle. Voilà 2 heures qu'ils auraient dû faire leur première percée. Mais ce temps, toute cette boue, impossible de bouger les roues des canons et de manœuvrer des régiments entiers de cavalerie. Allez, il faut patienter quelques minutes encore. Le grand chef a été clair. Chaque minute compte, certes, mais 10 minutes trop tôt et la catastrophe pourrait être au bout du bout, totale, si le manque de préparation est flagrant. 11h30. Les premiers Français, enfin, mettent le pied dans le bois sud de la ferme d'Hougoumont. Pourtant, pour Jérôme, de ferme, il n'y a pas encore. Il ne l'a toujours pas vu. Protégé par le bois, l'exploitation agricole, transformée en forteresse, attend le point de contact. Il se fait d'ailleurs la réflexion, le prince impérial. Certes, ses hommes sont nombreux, mais il ne note pas une forte résistance. Dans cet enchevêtrement d'arbres et de branches, déjà, les oiseaux ne chantent plus. Les premiers coups de feu résonnent, la fumée, elle aussi, s'installe. Les animaux se sauvent aussi vite que possible, dans les terriers, dans les cavités. Au-dessus de ceux qui se réfugient sous terre, les pas des Français résonnent, porteurs de mort et de souffrance. Bientôt, sans vraiment avoir eu affaire à une forte résistance, les troupes de Jérôme aperçoivent la lisière opposée. Pour tomber dans le piège une fois franchi. Face à eux, une immense demeure dont l'entrée est marquée par une porte cochère. Mais entre leur position et ce qui semble déjà être un précieux sésame, un terrain vierge, le premier no man's land de l'histoire. Et là, derrière les murs, en haut des toits placés contre les fenêtres, les carabines Baker et les tireurs d'élite sont là. Ils vont pas se faire prier pour faire du dégât dans les rangs ennemis. Autant que possible. La première attaque est une catastrophe pour les Français qui doivent enregistrer les informations du terrain tout en essayant d'atteindre cette fameuse porte sud. Le général Baudouin a été tué. Les Anglais et leurs rifles. Ils sont armés de carabines avec lesquelles ils peuvent viser bien mieux que leurs ennemis. En effet, les fusils Charleville sont loin d'être aussi précis. Trop tard, les morts s'enchaînent. Les assaillants ne peuvent progresser. Les Britanniques visent les officiers, bien reconnaissables, qui tombent les uns après les autres, tués ou blessés. Bien qu'en supériorité numérique, les Français doivent battre en retraite et se replier au cœur du bois, à l'abri des feuilles et des troncs. Il est aux alentours de midi. Mais plus personne, déjà, ne regarde sa montre dans cette zone du champ de bataille. Le général Rey vient demander à Jérôme ce qu'il doit faire. Trop exposer leurs hommes dans cette attaque de diversion, c'est accumuler les pertes et surtout aller contre ce que Napoléon a pu demander. Mais le jeune Bonaparte a déjà les yeux couleur feu. Prendre la ferme. Voilà ce qu'ils vont faire, et à tout prix. Il ne sera pas défait, ni tancé par son frère. Non, pas cette fois. Sa connaissance accrue du terrain joue en sa faveur, il lance une nouvelle attaque. Malgré le fait que les soldats de Jérôme Bonaparte vont pouvoir pénétrer un moment dans la cour de la ferme et que le château de la cour et de nombreuses dépendances vont partir en fumée dans l'après-midi, jamais Hougoumont ne tombera. Et cette attaque de diversion se transforme en un bourbier dans lequel des régiments, qui auraient été utiles ailleurs pour l'empereur, vont subir des pertes plus que dommageables. Voilà une heure que les coups de feu tonnent sur l'aile gauche française. Napoléon, qui s'appuie enfin sur un terrain plus sec, fait manœuvrer sa grande batterie d'artillerie. On parle de plus de 80 canons, chargés de détruire les premières lignes ennemies, les boulets étant les instruments de la faucheuse. 12h30. Un bruit tonitruant donne le départ de cet envoi massif de fonte de fer dans les cieux et vers les régiments adverses. Mais Wellington a prévu le coup. La plupart de ces lignes sont en effet à l'abri derrière une contre-pente, assez marquée pour se protéger de cette symphonie mortuaire jouée par les artilleurs français. Les régiments les plus près, pour la plupart hollandais certes, sont les premières victimes de ce feu préparatoire. En effet, Napoléon a déjà un coup d'avance, celui de faire avancer un amas massif de fantassins, près de 17 000, à l'assaut de la pente. Leur but ? Bousculer le centre de l'armée ennemie et provoquer son effondrement. L'empereur n'est pas idiot. Il sait que les Prussiens marchent vers le champ de bataille. Il lui faut vite battre Wellington à plate couture pour pouvoir se retourner ensuite contre l'autre armée ennemie actuellement en marche. C'est l'heure pour le général Drouet-d'Erlon de prendre sa part. Suant à grosses gouttes, une montagne de fusils dans son dos, il déclenche à 13h30 le début de son attaque. Au début, tout se passe bien. Ses hommes culbutent les Hollandais, assommés par les coups de canon, passent le long de la ferme de la Haie Sainte sans s'attaquer à sa garnison. Ils ont le pied sur le plateau ennemi. À ce moment-là, Napoléon, sans contestation, vient de gagner une première fois la bataille de Waterloo. Oui, mais voilà. Vous le savez, le destin est joueur ce 18 juin 1815. Et il sera cruel pour Napoléon qui, de sa lorgnette, s'apprête à voir l'impensable. Alors que les troupes engagées sont aux prises avec les baïonnettes anglaises, de loin, il perçoit un mouvement de cavalerie ennemie. Il sue à grosses gouttes. Voilà maintenant que ses soldats refluent dans le vallon, se débandent. Enfin, c'était gagné il y a 5 minutes. Une partie de sa colonne d'attaque s'est installée sur sa droite, prenant la dernière ferme. Mais ce qu'il ne peut pas voir, c'est que dans le cœur de la mêlée, le commandant de la cavalerie britannique a eu un véritable coup de génie. Sans en avertir Wellington, il lance à l'assaut des Français ses Scott Greys, dressés sur leur immense monture, qui culbutent les fantassins, les font reculer en désordre. Et sans précaution, ne s'arrête pas. Voilà qu'il déboule dans le vallon, qu'il traverse l'espace entre les deux lignes à toute vitesse. Ils sont suicidaires, pense Napoléon, qui d'un geste ordonne qu'on les intercepte. Cuirassiers et dragons se mettent en chasse. Les cavaliers ennemis atteignent les premiers canons et sabrent les artilleurs, avant de se faire prendre en étau et pire, de se faire laminer. Voilà le prix à payer pour les imprudents à Waterloo. La mort. Et les Français, bientôt, à ce petit jeu, ne seront pas en reste. Voilà, en tous les cas, une quantité considérable d'hommes de Napoléon qui, avant un temps, ne sera plus en possibilité de se battre. Il va falloir réorganiser ces régiments, qui ne ressemblent plus à rien après leur déroute surprise. Le canon, lui, tonne toujours. Le nuage de fumée est d'une épaisseur folle. Hougoumont n'est pas tombé, l'attaque centrale a échoué. La bataille semble plus indécise que jamais, et le temps presse. Les Prussiens, déjà, arrivent sur sa droite.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache part en immersion au cœur de la bataille de Waterloo. Affrontement légendaire qui fit basculer la face du monde. Démarrage des combats retardés. Hougoumont qui offre une résistance héroïque. La cavalerie lourde britannique qui renverse son attaque de colonne centrale. Décidément, les éléments semblent contre Napoléon. Et le temps, lui non plus, n'est pas son allié. Une attaque décisive doit être menée maintenant, avant de voir les Prussiens débouler et inverser la tendance à son désavantage. Cependant, il est bien souvent mauvais de confondre vitesse et précipitation. Et l'empereur des Français va l'apprendre à ses dépens. Nous sommes le 18 juin 1815. Il est un peu plus de 16 heures. La ligne alliée de Wellington tient bon. Le maréchal Ney, lui, est sur tous les fronts. Il revient d'un assaut contre la ferme de la Haie Sainte qui a échoué encore. Les canons tonnent, les cris des blessés résonnent sur le plateau et, alors qu'il se trouve le long des lignes avec son état-major, un coup de lorgnette lui permet de voir que les troupes ennemies bougent. Les premières lignes en réalité. Ça y est, pense-t-il. Wellington, abruti par l'artillerie et le harcèlement des Français, recule. Le maréchal Ney ne le sait pas encore, mais il se trompe. Seuls les blessés sont en train de prendre la route de Bruxelles. Et Wellington ne fait reculer que de quelques pas ses lignes exposées au feu afin de les soulager. Mais pour Ney, le brave des braves, c'est le signe de la retraite. Il va chercher en catastrophe une brigade de cuirassiers, deux régiments. Des centaines de chevaux, dont les cavaliers en cuirasse de fer, viennent le suivre en direction du plateau. Mais il n'a pas averti Napoléon de cette manœuvre. L'empereur est estomaqué. Quelle erreur ! D'autant que Ney n'arrive pas à contrôler les cavaliers qui le suivent. Il avait demandé deux régiments. Et voilà que d'autres, ravis de pouvoir partir au combat, ont laissé leurs montures s'emballer. Sur un front très étroit, voilà plus d'un millier de cavaliers qui partent à l'assaut des fantassins ennemis. Alors que le maréchal passe avec ses premiers hommes le point haut du plateau, il se rend compte de son erreur. Mais il est trop tard. Devant lui, en échiquier, plus de 20 carrés sont en place et l'attendent. Des forteresses humaines, taillées pour désosser la cavalerie ennemie, sont prêtes. Prises en étau entre les carrés, les cavaliers sont victimes des baïonnettes et de la puissance de feu de ceux qu'ils croyaient battre en retraite. Les premières charges sont menées trompette battante. C'est un échec. Alors, Ney se retire derrière la contrepente, mais pour dégager les cavaliers qui sont restés coincés, il doit y retourner. Une fois, deux fois, trois fois. Napoléon n'a plus le choix. Il doit soutenir le mouvement. Pour réussir, une charge de cavalerie doit pouvoir compter sur un soutien d'artillerie et d'infanterie. Il ne peut offrir à Ney ni l'un ni l'autre. Il n'a donc plus le choix. C'est la cavalerie de la garde qui va devoir donner pour sauver les apparences. Chaque cheval qui meurt, chaque cavalier qui tombe est une catastrophe. Comment pourrait-il poursuivre une armée ennemie en déroute sans cavalerie capable de le faire ? Napoléon comprend tout de suite l'ampleur de la catastrophe qui se profile. Les régiments à cheval de sa garde sont composés de troupes d'élite. Les grenadiers à cheval, les chasseurs, les lanciers rouges, tous se déchaînent, se fracassant sur les carrés, tentant de ressortir, y retournent, sans résultat. Ney, lui, est toujours en tête. Des chevaux meurent sous lui. Il se relève, reprend la tête. Sur la fin des mouvements, alors qu'ils sont les seuls à être restés en réserve, il envoie à la mort les deux régiments de carabiniers dont les cuirasses en laiton vont luire sur le sol dès la nuit tombée. Les défenseurs sont éprouvés par tant de chocs et la ligne de Wellington est prête à céder. Mais à quel prix ? La cavalerie française a été sacrifiée et le maréchal Ney vient de condamner totalement la possibilité pour l'empereur de peser sur la suite des événements. Néanmoins, peu après 18h30, la ferme de la Haie Sainte, enfin, est soumise à une énième attaque. Privée de ravitaillement en munitions, la garnison de la King's German Legion qui la défend se fait massacrés à la baïonnette. Pour la deuxième fois, plaçant des batteries près de la ferme qui pilonne Wellington en continu, Napoléon, dans les faits, vient de gagner la bataille pour la deuxième fois, et pas pour longtemps. Depuis plusieurs heures déjà, les Prussiens ont investi le village de Plancenoit. Napoléon, qui n'a plus d'autre choix, doit se séparer d'une partie de sa garde à pied pour défendre son côté droit. Cette jeune garde, qui n'a de jeune que le nom, va se battre avec vaillance et héroïsme face à un adversaire en supériorité numérique. Ils sont accompagnés du 6e corps du général Mouton. Napoléon disait d'ailleurs de son subordonné « Ce mouton se bat comme un lion. Le vieil aigle a encore de l'humour. » Les combats de ce côté du champ de bataille sont déterminants. Les Français ne peuvent que retarder une échéance qui se profile à l'horizon. Grouchy, qu'on attend pour sauver ce qui peut encore l'être, n'arrive pas. Au lieu de ça, des Prussiens affluent encore, toujours. Ils prennent une première fois le village de Plancenoit et repoussent les Français à l'extérieur. Mais les troupes de l'Aigle ne capitulent pas. Ils repartent à l'assaut, reprennent à leur tour le bourg, se battent dans chaque rue, devant chaque maison. Nombre d'entre eux sont massacrés dans le cimetière. Napoléon sait que la situation est chancelante. Il doit donner un dernier coup de butoir pour emporter la décision et se décide, en dernier recours, à lancer sa garde impériale, extrémité très rarement atteinte dans l'histoire de ses batailles. La ligne alliée frémit. Quand les vieux de la vieille se mettent en marche, c'est la terreur qui se lit sur les visages. Mais là encore, rien ne fonctionne comme prévu. Des Hollando-Belges qui se trouvent là percutent la moyenne garde, qui, surprise, recule. C'est à ce moment précis que Wellington lève son bicorne et sonne l'avancée générale. Les cavaliers prussiens arrivent à bride abattue. Tout est perdu. L'armée impériale, pour la première fois de son histoire, recule et bat en retraite dans une totale désorganisation. Il en aura fallu d'un cheveu. Tant le destin semble avoir hésité durant des heures, mais cette défaite sonne le glas de l'aventure personnelle de Napoléon. Pour la plaine de Mont-Saint-Jean, nommée « Bataille de Waterloo » par le vainqueur le soir de la bataille, c'est la gloire et la légende. Le bilan, lui, est peu croyable. Près de 40 000 tués, blessés, disparus. Près de 10 000 chevaux ont péri eux aussi. Hougoumont, la Haie Sainte, la Belle Alliance deviennent des bâtiments historiques qui portent aujourd'hui encore les stigmates de l'affrontement. La morne plaine de Victor Hugo n'en aura jamais été une. Elle est jonchée de vallons au creux desquels reposent les braves de toute nation. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec la citation issue des Misérables de Victor Hugo et qui prouve à elle seule à quel point cette bataille a une place particulière dans l'histoire du monde. Il écrit « Waterloo n'est point une bataille, c'est le changement de front de l'univers. » Les mots justes, encore, toujours. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.